et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone depuis le Salon du Livre de Montréal aujourd'hui avec le public. Bonjour Montréal. Et bonjour Enki Bilal. Vous êtes invité d'honneur de cette édition 2019, Enki. Nous allons donc animer ensemble cette émission, c'est exceptionnel. Êtes-vous prêt, Enki ?
Je suis prêt.
Vous avez l'air. Allons-y pour le sommaire. Vous allez vivre avec nous à distance l'ambiance de cette 42e édition du Salon de Montréal. Il était avec nous l'an passé pour co-animer avec moi. Il est notre chroniqueur de luxe immortel de la librairie francophone. C'est Dany Laferrière de l'Académie française. Bonjour Dany.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben ça va très bien.
Bon, vous avez publié ici au Québec un livre de dessin, le deuxième livre dessiné après Autoportrait de Paris avec chat. Et c'est Enki Bilal qui va mener cette interview.
Bonjour Dany.
Oui, je sais, il s'y connaît en dessin.
Ah oui, un tout petit peu.
Mais justement, il n'y a pas de dessin dans votre livre.
Voilà.
Et c'est ça qui est extraordinaire.
Magnifique.
Dany Laferrière, interviewé par Enki Bilal, c'est inédit et exclusif.
Nous recevons aussi une grande dame de la littérature québécoise. Antonine Maillet est la seule Canadienne à avoir reçu le prix Goncourt. Ça fait 40 ans presque, jour pour jour. Et entretien avec Emmanuel Kérad dans quelques instants.
Une émission qui sera aussi hip-hop aujourd'hui, avec deux représentants de la scène hip-hop québécoise, Webster, qui sort un manuel d'écriture original, et Biz, qui publie son 7e roman, un livre palpitant qui nous emmène à Baie-Comeau, au nord du fleuve Saint-Laurent. Bonjour à vous deux, merci d'être là.
Bonjour mesdames et messieurs.
Merci beaucoup.
Et puis de la poésie avec Maude Evelyne, qui reçoit ce week-end le prix de poésie de Radio-Canada 2019, ici au Salon du Livre de Montréal.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et trois libraires sont avec nous aujourd'hui, comme toujours des libraires. Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles représente la Belgique. On a un petit souci de connexion avec elle, on est en train de régler ça. 12 personnes sont sur l'affaire en ce moment même. Et en Suisse, Enki Bilal.
Bonjour Déborah quand même.
Oui mais non, justement elle n'est pas encore.
Ah, moi, je
elle arrive.
Prompteur.
Mais il n'y a pas de prompteur.
Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry représente la Suisse. Bonjour Dominique.
Bonjour Enki.
Bonjour Dominique. Sur le plateau du Salon du Livre de Montréal, c'est Jérémy Laniel qui représente le Canada. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Toujours, toujours. Un ravissement de vous avoir à Montréal.
Un ravissement de vous avoir aussi dans cette ambiance incroyable. On aura une petite nouvelle vous concernant. J'en parlerai tout à l'heure. C'est pas très gay, mais bon, voilà. En tout cas, si c'est gay, parce que bon, bref, vous verrez. On va commencer cette émission avec une grande dame de la littérature québécoise. Bonjour Antonine Maillet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes originaire de Bouctouche au Nouveau-Brunswick, auteur de plus de 50 livres. Vous avez obtenu le prix Goncourt en 1979 pour Pélagie la charrette. Ce livre fait référence à la déportation des Acadiens, peuple francophone d'Amérique, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick notamment. Et ce prix, il a résonné comme un hommage au peuple acadien à l'époque.
C'est-à-dire que c'est la plus belle réponse qu'on pouvait recevoir parce qu'on l'attendait depuis deux siècles. Hein. On n'avait jamais parlé de la déportation. Il y avait seulement les Acadiens qui savaient qu'ils avaient été déportés. Puis même, il fallait qu'on revienne au pays pour savoir qu'on avait passé à travers cette tragédie-là.
Oui.
Et sans Pélagie, on ne revenait pas.
Oui, c'est ça. Votre histoire, en fait, c'est Pélagie qui va amener les Acadiens qui ont dû fuir, en fait. Elle les ramène sur les terres des origines et à toute une histoire humaniste magnifique. Dans votre nouveau livre, vous venez d'en publier un qui s'appelle « Clin d'œil au temps qui passe » paru chez Leméac. Vous racontez une partie de votre enfance, votre travail d'auteur, ce que vous avez vécu aussi après ce Goncourt. Et en 1987, vous êtes l'invité du président français François Mitterrand au deuxième sommet de la francophonie organisé au Canada. C'est une histoire magnifique qui commence lors de sa visite en Acadie. Il vous appelle, il dit « Je veux visiter l'Acadie ». Vous l'accompagnez et vous allez le mettre en retard pour un dîner avec le Premier ministre du Nouveau-Brunswick avec la complicité passive de Mitterrand.
Vous voulez que je la raconte ?
Oui, allez-y.
Figurez-vous que j'étais dans le salon de coiffure et on m'appelle au téléphone. Alors moi, un salon de coiffure, si quelqu'un va au téléphone, tout le monde écoute. Hein. Alors, je répondais simplement, je dois être à Québec demain matin à 7 heures, mais pour qui? Vous dites pour Mitterrand. Alors, le salon de coiffure, sais-tu? Il pensait que j'allais donner tout de suite une conférence à M. Mitterrand, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, c'est comme ça que tout a commencé. Et là, à 7 heures, le lendemain matin, j'étais à Québec et j'accompagnais M. Mitterrand qui allait visiter l'Acadie. Mais tenez-vous bien, ceci, c'est un secret.
Oui.
Je ne pense pas l'avoir jamais dit. Mitterrand m'a dit, vous savez que j'ai dû venir malgré tout, parce que je voulais aller voir l'Acadie. Mais le Québec n'était pas très chaud à cette idée-là parce que ça supposait que Mitterrand n'était pas qu'au Québec, mais qu'il préférait peut-être ou privilégiait dans un certain sens l'Acadie. Eh bien, moi, j'étais ravie. Hein?
Oui.
Et j'ai expliqué à Mitterrand que ce n'était pas le Québec qui faisait ça, c'était deux ou trois personnes au Québec qui avaient dit à M. Mitterrand qu'il n'aurait pas le temps d'y aller. Il dit, j'ai tout mon temps, moi.
Oui, c'est ce qu'il a fait. Et quand vous arrivez au sommet, Mitterrand vous oblige à le suivre et à intervenir au sommet de la francophonie.
C'est-à-dire que là, je l'accompagne, mais le moment, là, c'est quand M. Mitterrand me dit, écoutez, il nous reste même pas 15 minutes, puis M. Hatfield, qui est le premier ministre du Nouveau-Brunswick,
à l'époque,
donc dans un certain sens, le président de l'Acadie, là, à ce moment-là, alors il dit, il nous attend pour une heure. On peut pas se rendre à Caraquet dans une heure, là. Il est grand temps qu'on parte. J'ai dit, Monsieur Mitterrand, vous savez qu'on a attendu, les Acadiens ont attendu pendant deux siècles, ils ont attendu le roi de France qui avait promis de venir. Ce soir qu'on l'a, ben, restez avec nous. Il a dit oui, allons voir la forge.
Voilà, il y a plein d'histoires magnifiques comme ça, Antonine Maillet. Vous êtes une militante parce qu'à l'âge de 20 ans, on vous offre une bourse France Acadie qui vous permet d'aller poursuivre vos études en France dans l'université de votre choix. Mais vous refusez par solidarité avec l'avenir de l'Acadie. Parce qu'on vous dit, si tout le monde s'en va, on ne va plus transmettre la culture, on ne va plus transmettre la langue. Et vous décidez de rester.
J'ai refusé la bourse France Acadie qui m'offrait 2 ans à la Sorbonne. J'avais 20 ans. Figurez-vous, j'étais aux anges. Eh bien, je me suis dit tout à coup, mais je ne reviendrai pas. Je vais rester, probablement. Comment est-ce que je vais revenir après ça en Acadie? Alors, là, je venais de rencontrer Mère Jeanne de Valois qui nous avait dit, il nous reste 50 ans pour décider si l'Acadie va survivre ou non. Nous étions en 50, puis elle a dit, en l'an 2000, peut-être que l'Acadie n'existera plus.
Ouais.
Et j'ai dit...
Et vous avez pris la décision.
J'ai pris la décision.
Enki Bilal.
Écoutez, je vous écoute, et plus de 50 livres ou 50 livres? Je voulais demander où en était le prochain. Vous en étiez avec
là,
le prochain.
Demandez ça à mes éditeurs, je ne sais pas combien.
Parce que votre fraîcheur me dit que vous êtes en train d'en préparer un autre. Il y a quelque chose d'assez incroyable.
Oui, deux, mais deux, je crois, deux. Oui. Deux.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui est prêt déjà, puis l'autre commence. Alors.
Bon, on a notre libraire belge, Déborah Damblon, qui a lu « Clin d'œil au temps qui passe ». Qu'en avez-vous pensé de ce livre-là, Déborah?
Oh, ben, beaucoup de choses, Emmanuel. J'ai ri, j'ai été touchée. J'ai voyagé, j'ai appris, j'ai réfléchi. Vraiment, vraiment, c'est un magnifique bouquet d'émotions que vous m'avez offert. Et puis, quelle jolie façon vous avez de vous mettre en scène et puis de vous adresser délicatement à nous et de nous donner la sagesse d'apprivoiser ce temps qui passe et de nous aider à percevoir eh bien, ce qu'il nous donne plutôt que ce qu'il nous prend. Et en plus, vous avez un talent de faire chanter et danser la langue.
Ça, c'est le plus beau compliment que je pouvais recevoir, madame. Merci.
Antonine Maillet, mesdames et messieurs, Salon du Livre de Montréal. Antonine, vous parlez de votre sœur plus jeune de 5 ans, une sœur qui passa presque inaperçue, dont vous n'avez jamais osé parler, en fait, dans vos livres, sauf dans celui-ci. Elle va se suicider et elle dit quelque chose de très joli, en fait. À son suicide, elle laisse un mot. Et vous écrivez ce qu'elle a dit. Elle disait « Je sais que vous m'avez aimé. Ce n'est pas à cause de vous que je meurs. Vous avez fait ce que vous avez pu. Au fond, j'ai toujours été très seule. J'ai vraiment essayé de vivre, mais ma vie, à part quelques moments heureux, a été un long calvaire intérieur. » Et elle rajoute, pour vous déculpabiliser, pour vous rassurer, « Je n'ai jamais détesté personne. »
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Bien sûr.
Qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'a pas dit. Moi, j'avais une amie qui était une psychologue, très forte psychologue, Margaret O'Leary. Margaret m'a dit, Vous savez, j'ai très souvent travaillé avec des futurs suicidaires ou des suicidaires futurs suicidés. J'en ai rescapé quelques-uns. Puis elle dit, c'était presque toujours le cas de votre sœur. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient vécu leur gestation dans le sein de leur mère au moment du deuil de leur mère d'un précédent. J'avais une petite sœur qui est née et qui est décédée à la naissance. Et oui. Ma mère a donné naissance quelques 9 mois plus tard à ma sœur. Et donc, comme elle a vécu à l'ombre du deuil de ma mère, eh bien, à ce moment-là, elle portait la mère avec la mort avec elle. Et ça l'a dit. J'aurais tellement voulu qu'elle le sache avant de mourir, ça.
Bon, plein de choses magnifiques, Antonine Maillet, parce qu'à la fin du livre, vous parlez de la dernière tranche de l'existence, qui fait partie du voyage, comme la première d'ailleurs. Et vous écrivez qu'au plus vivant de l'âge le plus avancé, il reste le goût de le vivre au centuple. Oui. Et c'est pour ça que vous écrivez en ce moment 2 livres.
Oui, vous savez que quand on voit moins bien, eh bien, on a une double vision. On voit l'invisible. Quand on entend moins bien, on entend les sous-entendus. Et quand on a moins d'odorat, on sent et pressent ce que l'autre est en train de nous dire. Ouais. Et c'est ça qui est le bien. Je vous dis à tous, vieillissez tranquille. Ouais. Parce que si vous voulez écrire, vous aurez des sens multiples.
Antonine Maillet, merci beaucoup, Madame Maillet. C'était un grand plaisir de vous avoir. Vous restez bien sûr avec nous. Clin d'œil au temps qui passe est paru chez Leméac. Merci à vous. À suivre, Daniela Ferrière de l'Académie française pour son nouveau livre dessiné, interviewé par l'artiste et auteur de BD Enki Bilal. C'est inédit et ce n'est que dans la librairie francophone que vous pouvez entendre ce genre de moment. Avant cela, on écoute la chanteuse belge Angèle et on revient ici au Salon du Livre de Montréal.
On parle de l'altitude, toi et moi, loin de nous. Notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu. Les gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir?
Belge Angèle qui a réussi le tour de force musicale de se faire écouter partout. C'était son nouveau titre Perdu sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone
au Salon du Livre de Montréal, présenté par Emmanuel Kérad et Enki Bilal.
Daniela Ferrière est l'invitée exceptionnelle de la librairie francophone aujourd'hui, exceptionnelle comme invité, car d'habitude il est chroniqueur ou co-animateur même dans cette émission, Dani.
Tout à fait.
Donc on lui a piqué sa place, il râle un petit peu aujourd'hui parce que
c'est pas du tout, je suis très heureux de céder ma place à un des grands.
Oui, pour la première fois, vous allez être interviewé par Enki Bilal. C'est inédit, allons-y, je vous laisse la main, Enki.
Alors, le moment est arrivé.
Oui.
Pour moi surtout. Pour moi surtout. Vous sortez un livre aux éditions Boréal, Vers d'autres rives, qui est le deuxième, qui continue un travail d'écriture et de dessin mêlé, entremêlé. Et là, vous dites, j'ai toujours rêvé d'une biographie qui exclurait les dates et les lieux.
Oui.
Je vous dis tout de suite que pour moi, le résultat est absolument émouvant, puissant. Et surtout, il n'y a pas de dessin, parce que vos dessins, c'est de l'écriture. Et c'est ce qui me, je dirais presque, bluffe le plus dans cette histoire. C'est que vous avez réussi, et c'est ce que la première question sera à ce niveau-là. Comment cette écriture qui mêle...
Des dessins quand même.
Des dessins, mais qui sont eux-mêmes intégrés dans l'écriture elle-même, parce que tout est manuscrit. Il faut bien dire que tout est totalement manuscrit.
Ouais.
Il y a une grosse critique que je ferai quand même. J'espère que vous l'accepterez. En quatrième de couverture, le code barre n'a pas été tracé par votre main.
Oui.
ISBN 978, machin, etc., c'est imprimé. 25 dollars 95 imprime au Canada. Voilà, c'est la seule chose qui soit imprimée qui ne soit pas de vous.
L'argent, alors... bien sûr, l'argent. C'est toujours ça, l'argent est matériel, il faut qu'il se commercialise un peu. C'est le drame, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout.
Alors, quelle est votre question?
La question, elle est comme... Bon, alors, le livre est absolument sublime parce qu'il nous... Alors, il faut faire un effort pour s'adapter à l'écriture, c'est évident.
Mais c'est tout à fait normal parce que moi, j'ai fait un effort pour écrire à la main, mais l'œil, lui non plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas exercé et qu'il n'a pas tenté de lire ce qui est écrit à la main. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'on est en train de perdre ensemble. L'écrivain et le lecteur, la magie de la main et la perspicacité de l'œil.
C'est tout à fait juste. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que cette écriture qui est lisible après un temps d'adaptation, qui est très lisible, qui a un côté enfantin,
j'espère.
Je pense. Voilà,
on assumait ce côté enfantin, Dany. Ouais.
Mais c'est des enfants que j'ai appris à faire ça.
Mais justement, ce côté enfantin laisse craindre. En permanence. Et moi, en lisant, j'étais en permanence dans la crainte de découvrir une faute d'orthographe. Or, il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une seule. Et c'est exceptionnel.
Parce que l'éditeur a bien fait son travail.
Ah, ça se corrige pas.
Bah si, figurez-vous que ça se corrige.
Non, tout est signé dans un livre écrit à la main. C'est-à-dire, tout est de la main de l'auteur. Je peux pas dire que c'est pas moi. Généralement, on dit, bon, il y a eu une faute d'imprimerie, il y a eu une faute, c'est les correcteurs. Et c'est ça le charme de l'affaire. Mais j'aurais bien aimé avoir fait des fautes. Parce que je suis pour les fautes aussi. C'est-à-dire, d'abord, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'Académie française. Il faut qu'il y ait une police de la faute, il faut qu'il y ait une faute. Cette petite imperfection, cette maladresse, cette idée de permettre à quelque chose de pas naturel de rentrer à un virus, c'est ça la faute. De rentrer dans le texte, c'est tout à fait bien.
Et je trouve ça très fort de faire croire qu'il va y en avoir parce que l'écriture est un peu enfantine, effectivement, et qu'il n'y en est pas. Je trouve ça exceptionnel.
Question, Kébila. Allez-y.
Oui, mais tout ça, c'est...
Non, mais vous avez
sous-entendu. Non, la question maintenant.
Les questions sous-entendues.
Il n'y a pas de question vraiment. Non, c'est comment agencer une écriture pareille. Parce que c'est deux écritures. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de dessin, évidemment, ce sont des dessins. Mais comment on gère... la main gère-t-elle cette imbrication permanente, de cette hybridité et qui fait qu'il y a un message, il y a des émotions limpides, il y a des choses limpides. Ouais.
J'aime bien l'idée d'hybridité, c'est exactement cela. C'est-à-dire que quand je fais, souvent les gens qui viennent au Salon du Livre, ils me demandent qu'est-ce que vous faites avant. Ça dépend de mon humeur. Mais souvent, le plus souvent, je fais le dessin avant. Je fais le dessin avant parce que le dessin, je peux me tromper, ça peut être pas bien. Je ne me considère pas comme dessinateur. Donc on fait ce qu'on ne sait pas faire avant. Et j'essaie de rétablir la chose, de faire mieux et dans l'écriture. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il m'arrive de dessiner mieux que d'écrire.
Bon, on va laisser la parole à nos libraires qui ont lu ce livre, Dany Laferrière. C'est un livre très dense, un peu comme Autoportrait de Paris avec chat, sauf que cette fois, il est un peu plus contenu, il est plus précis d'ailleurs, tout en gardant cette folie douce qui nous captive à chaque page. Il y a des petites histoires, des légendes aussi, des instants de vie, des confidences. Et ça, c'est tout vous, Dany Laferrière. On va voir si les libraires sont d'accord avec Enki Bilal et moi. La Suisse ou le Canada, on commence par qui, Dany?
Je sais plus, c'est deux pays étranges. Le Canada.
Jérémy Laniel, allons-y.
Mais un peu comme son précédent livre, je respecte grandement la folie qu'il y a dans ce livre-là, une folie totale. C'est un projet fou que de rares écrivains peuvent se permettre. C'est rempli de pépites, de perles que seul Daniel Laferrière est capable d'écrire. Par contre, je dois avouer que le déchiffrage qui incombe au lecteur m'a encore un peu plombé le plaisir de lecture. Mais là, vous venez de parler de l'effort de déchiffrage. Et donc, peut-être que
non,
je
mais
suis
pas d'accord
et
du
je déteste
tout.
Pas ça.
Je suis pas d'accord du tout. C'est très lisible. Et tous les lecteurs peuvent vous le dire. C'est-à-dire, il faut faire un effort de lire aussi.
Ouais. Voilà. Mais non, mais on n'est pas d'accord.
Avec j'aime bien cette idée d'effort.
Avec non. Jérémy, on n'est pas d'accord. Moi non plus,
non,
je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord du tout. J'ai avancé, j'ai fait du progrès. Vous savez, c'est la main. Essayez donc. Non, je suis pas d'accord qu'on revienne avec la même chose parce que c'est pas vrai. Vous
voyez, c'est vrai qu'il revient avec la même.
Il a fait des efforts, il a besoin d'une tape sur l'épaule. Vous pouvez pas dire que.
Il y caresse l'épaule, du coup.
Un effort qui a été fait. C'est pas vrai.
Attendez, il y a Dominique Bressoux qui est en Suisse qui s'agite. Vous voulez réagir, Dominique?
Oui.
Oui, non, moi j'ai adoré ce livre. Et entre autres, j'ai été vraiment impressionnée en allant regarder sur Internet les peintures d'artistes que vous reproduisez. Parce que vous avez su saisir à merveille et interpréter vraiment les caractéristiques de leurs œuvres. Et moi, je me suis perdue dans vos pages avec délices, naviguant entre mots et vagues de peinture. Et je dirais que pour les auditeurs, c'est une expérience à essayer absolument.
Voilà, les avis sont partagés.
Là, je suis d'accord, complètement. C'est quand on tombe sur la lectrice rêvée.
Vous m'avez donné chaud là. Bon, on va terminer avec un dessin qui m'a interpellé, Dany Laferrière. À un moment, vous êtes enfant, vous dessinez enfant un petit goave avec un cerf-volant, avec une mangue. Vous dites que vous mangez des mangues tous les jeudis en rentrant de l'école. Et la question qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est à quoi rêve-t-il aujourd'hui le petit Dany Laferrière qui est devenu grand? Qu'est-ce qu'il mange à Paris quand il va à Paris pour l'Académie française? Et dans quel lieu rêve-t-il?
Ah, qu'est-ce qu'il mange, je peux vous dire. Avocat et mangue.
Encore.
Je n'ai pas arrêté. C'est les fruits magnifiques qui existent. Je peux même vous donner l'adresse. C'est à Château Rouge.
Oui, pas de publicité, oui.
Mais Château Rouge, c'est Château-Rouge. Un endroit.
Oui, c'est un quartier.
Si je dis Paris, c'est pas une pub qui se fait pour Paris. C'est un endroit.
Et vous la mangez où, cette mangue, alors?
Je la mange dans ma chambre. D'abord, je ne mange pas tout de suite la mangue. Il faut qu'elle parfume la chambre.
Bon, voilà. Merci. Merci, Dany Laferrière. Vous allez rester avec nous parce que la suite, avec Enki Bilal, on va parler de l'adaptation à la télévision de Bug. Il va nous annoncer une grande nouvelle, d'ailleurs. Et vous pourrez lui parler cinéma tout à l'heure. Un échange bilatéral à nouveau. Merci, Dany Laferrière. Vous pouvez l'applaudir, Dany Laferrière. Votre livre dessiné Vers d'autres rives est paru en Europe aux éditions de l'Aube et au Canada dans une version augmentée chez Boréal.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Voilà, je vais changer de plateau avec un micro sans fil. Enki Bilal, je vous laisse tout seul gérer nos invités si besoin. Et j'arrive même sur une petite scène installée spécialement pour une performance. Bonjour Maud Evelyne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans la librairie francophone. Vous êtes la lauréate du prix de poésie Radio-Canada 2019. Pour votre texte, J'ai vu ma mère en rêve, dont vous allez lire un large extrait sur une musique dans un instant. Avant cela, un mot sur votre parcours. Vous êtes poétesse, mais aussi artiste, chanteuse. Vous avez participé à des festivals ici au Québec, des premières parties de grands chanteurs, de grands artistes comme Diane Tell. Et vous jouez au piano depuis l'âge de 5 ans. Mais la poésie, elle est venue à l'âge de 8 ans, dans votre journal intime.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez écrit à cet âge-là?
Je m'en souviens en plus. Vous le voulez vraiment? Ok.
C'était sur le temps qui passe, ou quoi?
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était.
Je sais mieux que vous vous rendez compte. Il y a un truc qui s'est passé là.
Oui. ça rimait. L'heure, elle court. Oui, elle court. De l'horloge, elle fait le tour. Les minutes affolées laissent les heures essoufflées derrière se reposer. C'était tout.
C'était tout. Vous pouvez applaudir, Maud Evelyne. Bon, vous allez cette fois lire votre poème sur une musique. Je vous laisse donc face au public de Montréal, sous les projecteurs là qui sont installés tout autour de vous. Voici Maud Evelyne, lauréate du prix de poésie de Radio-Canada 2019 sur la musique d'Alex Lefebvre Quartet.
J'ai vu ma mère en rêve. Je me souviens du camping, des cadavres sur le lac. Ma mère, des pansements sur les yeux, sous les sapins, les étoiles. Je suis née dans un pédalo comme un poisson surpris. Je sentais le gruau et le pit de feu. Ma mère a creusé un trou plus grand que l'aube pour enterrer les corps. Je me souviens du sang séché, des soutiens-gorge beige. Je n'ai rien appris depuis. Sur la colline rouge, il y a des racines à manger, il y a des arbres calcinés, il y a ma mère comme seul contenant Tupperware possible. Sur la colline rouge, il y a des cheveux blancs et des gants de vaisselle. Sur la colline rouge, il y a le stationnement du Costco. Il pleut une pluie éternelle et c'est toujours la fête des mères. Je suis en retard. Sur la colline rouge, je cherche ta mamelle. Ma langue s'est cassée contre ton squelette. Dis-moi la vérité. Montre-moi le visage que j'aimais. Sur la colline rouge, j'ai vu ma mère en rêve.
Maud Evelyn, que vous pouvez applaudir, Prix Poésie Radio-Canada 2019. Merci Maud Evelyn.
Merci.
Antonine Maillet, Daniela Ferrière, Enki Bilal, tout le monde vous a écouté. Antonine Maillet voulait réagir.
J'aime la poésie. Et quand elle est faite comme ça, c'est-à-dire, elle écrit entre les lignes, c'est ça que j'aime.
Vous avez écrit entre les lignes, vous avez touché le cœur de tout le monde ici. Merci beaucoup Maud Evelyn. Merci Maud Evelyn, vous pouvez l'applaudir.
Merci.
La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. Jérémy Laniel, pour le Canada, un coup de cœur le temps que je vous rejoigne en plateau.
Oui, un coup de cœur. J'ai peut-être l'impression de défoncer une porte ouverte en ce moment au Salon du livre de Montréal, mais c'est le dernier Michel Rabagliati, Paul à la maison, publié à la Pastèque. On l'attendait, pas avec une brique ou un fanal, mais on l'aimait tellement, Paul, qu'on avait peur peut-être d'être déçu, perdre au jeu des attentes. C'est absolument pas le cas. C'est un Paul un peu sombre, un Paul mélancolique, un Paul qui pourrait avoir l'air un peu drame, mais c'est pas du tout le cas. Ça se laisse lire, sourire en coin. Le génie de Rabagliati fonctionne encore. Vraiment, si vous avez pas découvert la série Paul de Michel Rabagliati, c'est un incontournable de la bande dessinée québécoise.
Et c'est aux éditions La Pastèque. Merci Jérémy. C'était votre dernier coup de cœur, car vous quittez l'émission, Jérémy. Vous changez de métier et de vie.
Rien de moins.
Rien de moins. Je vous souhaite tout le bonheur possible, Jérémy. C'était un grand plaisir de vous retrouver régulièrement dans cette émission à la radio et aussi dans la version télé de la librairie francophone. Vous resterez un peu avec nous de temps en temps.
Absolument. Antoine Baillet est en train de partir.
Dany Laferrière.
Une seconde pour dire qu'elle a inventé un langage neuf en 79 quand son grand roman Pélagie la charrette est sorti chez Grasset. On a été époustouflés par cette langue rabelaisienne, sa façon de nous faire entendre la musique de son peuple, mais beaucoup plus que cela. Le style d'une femme.
Antonine Maillet qui part sous les applaudissements du public et l'hommage de Dany Laferrière.
Alors,
Enki Bilal.
Nous allons changer un peu de continent. Nous allons traverser l'Atlantique vers la Belgique. On part en Belgique. Donc, Déborah Damblon, nous entendez-vous? Coup de gueule ou coup de cœur pour vous?
Ben pour vous, Enki, un coup de cœur, bien sûr. Hein. Un coup de cœur pour un essai. Ou plutôt un ovni, parce que je pense que vous aimez ça, les ovnis. Donc on est entre roman, philosophie et vulgarisation scientifique. Et l'auteur nous emporte dans un récit, mais complètement loufoque et tout à fait échevelé. Et il parle science, il parle philo, même culture générale. On en ressort passionné, amusé, complètement ébouriffé. Et même un petit peu plus malin qu'avant.
L'homme qui voulait mettre la société en équation, c'est le titre de ce livre de Fabien Saunier aux éditions Le Pommier. Désolé pour cette connexion très difficile aujourd'hui avec la Belgique. On va terminer avec la Suisse, Dominique Bressou. Et un coup de gueule, je crois, Dominique.
Oui. En fait, on parle dans cette émission de livres extrêmement intéressants. Mais voilà, pour l'un d'eux au moins, je sais que je risque de ne pas l'avoir avant Pâques 2020. La question que je me pose sur certains éditeurs québécois, c'est est-ce qu'ils envoient leurs livres à d'autres dauphins ? Parce que ce serait fantastique pour l'écologie, mais c'est vraiment pas efficace. Et nous, les libraires suisses, on aimerait vraiment beaucoup faire connaître des auteurs québécois contemporains.
Et surtout un livre que vous avez adoré, qui est à suivre, je ne vous dis pas lequel, mais il y en a un. Les invités se regardent en ce moment même. Merci beaucoup Dominique. Voici de la musique à présent avec un magnifique duo franco-québécois, Pierre Lapointe et la chanteuse française d'origine corse, Clara Luciani. Ils interprètent tous les deux « Qu'est-ce qu'on y peut ?». On les écoute et on se retrouve juste après avec Biz, Webster et bien sûr Enki Bilal. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde, depuis Montréal en public.
Reste là, ne bouge pas.
pas le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayer de se persuader que ce n'était pas si bon.
C'était Pierre Lapointe, le Québécois, et Clara Luciani, la Française, avec « Qu'est-ce qu'on y peut ?» sur votre radio francophone, évidemment.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone.
Au Salon du Livre de Montréal, présenté par Emmanuel Kérad et Anki Bilal.
Avec Biz et Webster qui sont sur notre plateau ici au Salon du Livre de Montréal, deux figures du hip-hop au Québec. Ils publient deux livres très différents mais qui ont pour point commun l'écriture et la valorisation de la langue française. Biz, on va commencer par vous avec votre septième roman Les Abysses qui nous emmène sur la côte nord à Baie-Comeau. On est dans l'ambiance au bord d'un lac avec une roulotte où il va se passer un drame avec un père et sa fille qui vont bêtement, je dirais, et tristement surtout, voir leur vie basculer. Mmh. Et ces lieux, vous les avez fréquentés quand vous étiez enfant?
Oui, absolument. Mes parents viennent de la Côte-Nord, mon père de cette île et ma mère de Baie-Comeau. C'était un terrain de jeu démesuré parce que à cet endroit-là, le fleuve devient la mer. Et donc, on est dans une dynamique de surf and turf, c'est-à-dire qu'on a la forêt et la mer. Pour un écrivain, ça a été un beau terrain de jeu.
Alors, c'est vrai que vous l'écrivez avec une grande force d'adaptation, parce que ce livre, au-delà de son côté roman noir, c'est un voyage dans ces endroits préservés du Québec.
Oui, absolument. Et moi, je me dis souvent que si les écrivains québécois écrivent pas sur le Québec, personne va le faire. Et donc, le Québec va pas exister dans la francophonie ou même dans le monde. Alors, il nous appartient à tous de décrire notre pays. Mort-terrain, j'avais placé ça en Abitibi.
Vous êtes applaudi par le public du Salon du Livre.
Et donc, je me plais, moi, à explorer mon pays, à décrire les territoires et les gens qui y habitent.
Et ça marche, moi, je voyage à chaque fois. Il y a plein d'endroits que je connais pas, malheureusement. Oui. Et je voyage grâce à vous, je les apprends un peu mieux.
Ben moi, s'il y a quelqu'un qui me dit j'ai envie d'aller sur la Côte-Nord cet été ou même cet hiver, je vais être content d'avoir écrit le livre.
Ben, j'ai envie d'y aller, moi.
Bon. Merci.
Je viendrai chez vous. Ouais. Michel est en prison, c'est votre personnage. Oui. Il a été séparé de sa fille, une étudiante qui vit un vrai cauchemar depuis qu'on a arrêté son père, que l'on a baptisé le boucher de Baie-Comeau. Il y a des situations dans la vie inextricables, Bise. Et vous l'avez déjà évoqué, ça, dans vos précédents livres.
Oui,
ce basculement inévitable.
Oui, c'est vrai. À la suite de mon propre rapprochement avec ma fille qui a maintenant 9 ans, je voulais explorer la quintessence d'une relation père-fille. Qu'est-ce que serait la relation ultime, parfaitement fusionnelle d'une relation père-fille? Alors, j'ai imaginé une mère qui meurt en couche. Et donc, le père est seul pour élever la fille. Donc, il est littéralement le seul repère de sa fille.
Il va devoir la sauver, mais on va pas en dire plus.
Malgré lui.
Malgré lui, presque.
Oui.
Ouais. Vous décrivez les médias, parce que c'est une affaire, c'est un peu polar, hein, ce livre-là.
Oui.
On pense à plein de choses. Je vous dirai d'ailleurs à qui tout à l'heure, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a un petit peu de Joël Dicker aussi.
Ouais.
En beaucoup plus court, hein, parce que votre livre est plus concis. Mais vous parlez des médias à un moment.
Ça m'intéresse beaucoup.
Voilà. Vous les décrivez comme étant des vautours qui ne valent pas mieux que les réseaux sociaux, chacun contaminant l'autre.
Ouais, mais moi, ça m'intéresse. Ce qui se passe m'intéresse, mais comment on en parle dans les médias et avec les réseaux sociaux maintenant m'intéresse beaucoup. J'avais traité ça un peu dans Naufrage. Et maintenant, je me suis dit, avec une affaire aussi médiatique, on peut imaginer qu'il y a des télés chinoises même qui viennent à Baie-Comeau réserver des hôtels pour rencontrer, essayer d'avoir une parcelle du boucher de Baie-Comeau. Alors, le traitement médiatique de ces nouvelles sordides-là m'intéresse beaucoup.
Enki Bilal.
Non, juste pour dire que je suis d'accord sur ce regard sur les médias. Je suis désolé, hein, j'en fais partie un peu ce soir.
Aujourd'hui, complètement, ouais.
Je suis absolument d'accord sur cette analyse, le rapport avec les réseaux sociaux, etc.
Merci.
Les libraires.
Mais d'autant plus que ça se ressemble.
Daniel Laferrière.
L'histoire de père-fille et les réseaux sociaux sont présents dans le livre Borg et volume 1 et volume 2 d'Enki Bilal. Et le résumé est tout simple. C'est le rapport d'un fusionnel d'un père et d'une fille.
Dans son livre aussi, ouais, c'est vrai.
Parce que moi, j'y mets fin avec un bug.
Exact.
Plus de réseaux sociaux. Juste les réseaux filiaux.
Allez, les libraires, vous avez entendu la Suisse tout à l'heure qui se plaint de ne pas recevoir les livres québécois, surtout ceux qui lui ont plu. Et je crois que c'est votre cas, Bise, avec Dominique Bressot qui veut réagir. Dominique.
Ah oui, alors moi, ce livre m'a complètement scotché et j'avais l'impression vraiment d'avoir oublié de respirer en arrivant à la dernière page. La finesse de l'analyse psychologique nous amène à une compréhension totale des personnages. On vit avec eux au fil de l'intrigue implacable, au rythme d'une écriture au cordeau. En fait, en résumé, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu cette année.
Ah, carrément.
Oh, rien de moins, merci.
Carrément.
Carrément. Carrément.
Bravo, Bise.
Merci, Dani.
Je m'y attendais depuis longtemps, mais ça a été dit de très loin depuis la Suisse. Et oui, mais ce n'était pas facile de changer de camp. C'est pas ça du tout. Mais vous étiez musicien et là, vous voilà salué pour votre écriture. Bravo. Oui.
Ben, je l'apprécie beaucoup. Merci.
Enki Bilal, Dani Laferrière est en train de vous piquer la place de co-animateur, je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez.
Chasser le naturel, il revient au galop.
Jérémy Laniel veut réagir. Jérémy, malheureusement, ça s'est pas trop bien passé pour vous.
Mais Elisabeth, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui se veut dense, une déconstruction du polar, on s'amuse avec les codes. Mais à un moment aussi, on veut doubler ça d'une vraie plongée dans les abysses humaines. Puis au final, moi, au résultat des pistes, j'ai trouvé le livre un petit peu mince pour tout ce qu'on promettait au départ.
Bon, Bise, alors, je vais vous faire un compliment.
Je pèse moi-même 135 livres, alors c'est normal que je fasse des livres minces.
Bise, en lisant votre livre, moi j'ai vraiment eu l'impression de lire le Goncourt de Jean-Paul Dubois. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Ceux qui ont aimé « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », le prix Goncourt donc, vont adorer ce livre. Parce qu'il y a le Québec, il y a la prison, il y a un drame que l'on découvre au fil du récit, il y a le basculement et le destin. Vous l'avez lu, le prix Goncourt ?
Non, pas encore, mais vous me donnez le goût.
Ah, mais ça va être incroyable. Vous allez halluciner, je vous assure.
Des fois, il y a la synchronicité des idées qui sont dans l'air du temps.
Hein. Ouais. Alors, votre écriture, elle est précise, très concise. Il y a un vrai rythme. Vous venez du monde du hip-hop. Il y a une grande attention portée à l'articulation des phrases. Et c'est important pour vous, les mots qui sonnent. C'est toute la démonstration de Webster. Dans son livre, À l'ombre des feuilles, manuel d'écriture hip-hop, Webster, vous analysez le rap dans le livre sur le plan sociétal, sur le plan culturel. Et pour vous, vous dites, c'est un mouvement littéraire à part entière.
Oui, à part entière, et depuis longtemps d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à être connu un peu partout à travers le monde. Au Québec, on commence tranquillement, mais je pense que les rappeurs sont pas encore assez vus comme des poètes, ouais, comme des gens qui utilisent et qui manient la langue de manière précise et incisive.
Et le rap, vous le racontez ça aussi, c'est parfois violent, c'est hostile. Le gangsta rap américain qui a eu une influence sur le rap francophone à un certain moment. Et vous dites en fait qu'un artiste doit avoir un discours socialement responsable. Et vous n'aimez pas ça, le rap violent.
C'est-à-dire que ce que j'écris, c'est que le gangsta rap existe. Et moi-même, j'en écoute. Je veux dire, parce que même le gangsta rap peut être littéraire. Parce que c'est pas nécessairement ce qui est dit, mais comment c'est dit. Toutefois, bien sûr que je suis pas d'accord avec la misogynie puis la violence, et surtout en vieillissant, j'ai un rapport beaucoup plus difficile que j'avais que quand j'étais jeune. Mais je crois pas que le rap doit nécessairement avoir un aspect social. Le mien, oui. Je pense que je pense que ça doit demeurer au choix. Parce qu'une personne qui a pas cette vision-là, qui décide de rapper de manière sociale, mais c'est plus authentique au final.
Oui, le rap peut réduire le fossé générationnel. C'est ce que vous expliquez aussi, ce qu'ont très bien fait les groupes IAM, Loco Locas, le groupe de Biz, ou encore MC Solar, ils ont prouvé cela. Et le Sénégal aussi, dites-vous.
Oui, tout à fait. Je pense à Matador, à Didier Awadi, Daradji, exact.
Oui, Daradji,
oui. Des pointures, des pionniers du rap sénégalais, et qui ont réussi à transcender exactement cette espèce de fossé social et générationnel, où au Sénégal, maintenant, les gens sont très fiers et connaissent, les gens qu'on appelle monsieur, madame, tout le monde, connaissent le rap sénégalais.
Oui, il y a même un téléjournal rappé, je pense.
Oui, Rouman.
Il y a un téléjournal rappé.
C'est excellent.
Ah, oui. Génial. Enki Bilal.
Oui, moi j'aime bien évidemment beaucoup l'idée que les musiciens hip-hop, rap, se mettent à écrire des mots dans des livres, que ces livres existent, parce qu'ils y mettent de la musique. Et je pense que là, quand on dit que c'est court, que c'est concis, c'est musical. Je pense qu'on ne verra jamais un musicien écrire un gros pavé. J'ai l'impression qu'il y a une énergie la rythmique des mots qui doit faire qu'on doit rester concis pour toucher au cœur. Alors, moi, venant du dessin, je veux dire, moi aussi, par exemple, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Mais c'est concis.
Un roman?
Carte blanche, après une nuit passée au musée Picasso. Voilà.
Ah oui.
C'est un concept.
Oui, oui, je vois.
Et, c'est ce qui me touche dans l'écriture et ce qui m'a, moi, énormément plu dans la langue française, c'est sa musicalité. Voilà. Et la concision, j'aime vraiment beaucoup ça. Et vous êtes vraiment des artistes de la concision aussi.
Mais le rap, c'est ça. Je crois que le rap,
Webster,
c'est un style musical et littéraire où est-ce qu'on doit passer plusieurs idées, plusieurs niveaux de compréhension en un court temps. Quand on parle d'un 16 bars dans le rap, qui est un texte standard, eh bien, il y a plusieurs niveaux à analyser et plusieurs idées dans un court moment.
Et le sens, la répétition du son, les allitérations finissent par générer du sens. Par exemple, si tu dis, tu susurres à ta blonde, il s'ensuit que j'en suis sensuellement sur elle, je suis en sursis sans censure, ça c'est sûr. Alors c'est le chuintement des draps de satin. Ouais. Tu n'utilises pas des mots en hack ou en ca quand tu parles d'amour à ta blonde. Tu choisis des sons plus doux, plus soyeux.
Ah, c'est comme ça que tu fais.
Exactement.
Mais ce que j'ajouterais pour le rap, ce que le rap a apporté, moi je me souviens de mon étonnement, que la poésie qui a eu un succès phénoménal au 18e siècle, 19e siècle, et surtout même jusqu'au milieu du 20e siècle, avait disparu, était resté un peu dans certains pays comme la Russie, et qui avait encore, et le Chili avec Pablo Neruda, les derniers poètes populaires qui ont dit un poème. Mais brusquement, alors que la poésie disparaissait, ce sont les jeunes gens des quartiers populaires les plus pauvres des États-Unis qui ont remis en circulation l'une des formes d'art les plus anciennes et les plus définitives.
Mmh. Webster, dans ce livre qui est un essai au départ, une analyse du monde hip-hop, petit à petit il devient un manuel avec des exercices de création. Et vous incitez les enseignants à utiliser votre livre comme un outil pédagogique. Ouais. À quoi peut-il leur servir ce livre?
C'est en fait, déjà à la fin, j'ai mis des exercices.
Oui.
Des exercices que je fais dans mes ateliers d'écriture afin de pouvoir stimuler l'intellect, stimuler l'imagination de leurs étudiants, mais à travers une culture qu'ils connaissent, qui est le hip-hop. Et donc, en fait, c'est de la poésie. C'est un cheval de Troie pour pouvoir intégrer la poésie. Et aussi avec l'analyse de textes. Et donc, j'ai pris plusieurs de mes textes que j'ai analysés pour qu'ils puissent travailler avec les jeunes, puis voir les différents sens et discuter autour de ces textes-là.
avec des valeurs aussi, des idées que vous portez, notamment le métissage. Mm-hmm. Vous vous définissez comme un Sénékeb métis pure laine, parce que vous êtes d'origine sénégalaise et québécoise. Uh-huh. Un Sénékeb,
ouais,
métis pure laine. Pourquoi pure laine?
Ben, parce que souvent, quand les gens parlent de pure laine, ils ont une vision très homogène du pure laine. Et donc, pour moi, ça me permet juste de casser un peu cette vision-là. Et c'est souvent des choses qu'on voit comme des paradoxes, métis et pure laine. Ouais. Mais finalement, ça fait juste ramener à l'humanité.
Et la question de l'identité, c'est important pour vous. Ça a été un véritable sujet pour votre rap. Vous avez, par exemple, exploré l'histoire de l'afro-descendance au Québec.
Mm-hmm. Tout à fait, parce que bon, ayant étudié en histoire, c'est une histoire que j'ai jamais vue, cette présence afro-descendante depuis les débuts de la colonie française et de l'esclavage aussi, l'esclavage des Premières Nations, l'esclavage noir, qui ont été complètement occultés de nos livres d'histoire. Et donc, j'ai commencé à rapper à propos de cette histoire afin de pouvoir transmettre ces informations-là, les sortir des livres. Et ça s'est mué en conférences, en visites guidées. J'avais une exposition récemment au Musée national des Beaux-Arts à propos des esclaves fugitifs. Et un livre aussi, Le Grain de Sable, un livre jeunesse. Donc toujours pour trouver différentes manières de transmettre cette histoire.
Et de faire un pont entre les générations surtout.
Ah oui, toujours.
Mais c'est ça.
Oh, ouais.
Êtes-vous fier aujourd'hui d'être invité d'honneur au Salon du livre de Montréal?
Oui.
Avec Antonine Maillet, avec Enki Bilal.
Mais oui, puis j'ai un peu ce sentiment d'imposteur là, parce que c'est mon premier livre.
Non, tu es un combattant.
Ben merci, puis bon... Je veux dire, ça fait 25 ans que j'écris, mais les livres, c'est la première fois. Et pour moi, c'est un grand honneur quand on m'a dit ça. Je fais, oh, ben, OK, pourquoi pas.
Voilà, Webster et Biz, que vous pouvez applaudir. Bravo, félicitations.
Merci.
Vous portez un hip-hop positif, un rap positif. C'est important aujourd'hui d'être positif. Québec Amérique, c'est votre éditeur, Webster, pour ce livre À l'ombre des feuilles, manuel d'écriture hip-hop. Et Biz, Les Abysses, Le Méac, c'est votre éditeur. Et vous l'avez entendu, vous êtes le grand coup de cœur de notre libraire suisse. Le meilleur livre qu'elle ait lu.
Rien de moins. Et on est quand même au mois de novembre. Quand on dit ça au mois de janvier, ça a moins de valeur.
Oui, de cette année. Merci à vous. Merci. Voici le retour de Daniela Feria et Enki Bilal, même s'ils sont restés en plateau, vous les avez entendus. Mais là, un échange encore une fois.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Enki Bilal, on va terminer cette émission avec vous et Daniela Ferrière. Bug a été adapté à l'écran.
Je n'en ai pas fini avec Daniela Ferrière.
Ah ben si, c'est terminé. Livres. Ah mais si, c'est fini là. Ah, bon. Ah oui, vous voulez dire quoi sur d'autres
livres? Non, ce livre me fascine d'autant plus que je me sens tout à fait incapable de créer une telle hybridité. Voilà, je me sens incapable de faire ça.
Et bon Dieu, c'est mon jour.
Pourtant, ça foisonne chez vous, Enki Bilal aussi. Hein.
C'est une question de construction mentale, c'est exceptionnel. Voilà.
Je ne sais pas ce que vous ne pouvez pas créer, mais ce que j'ai lu hier soir, parce que j'ai lu vos deux tomes de Bogre, et moi, je vois un poète. Je vois un poète qui part d'une couleur. J'avais l'impression d'avoir un peu de bleu encore sur moi. Vous voyez, en lisant le livre, j'ai du bleu.
Et parce qu'il y a beaucoup de bleu.
Et ce mot bleu, c'est ça, c'est à partir de ce bleu, une tache bleue qui s'agrandit un peu sur le visage, qui crée une sorte de territoire, quelque part. Un paysage intérieur ou un nénuphar, j'aurais pu dire, si j'étais Boris Vian. Il y a quelque chose qui se développe comme un être, disons, étranger, un alien, qui se développe à l'intérieur, comme des vagues de couleurs qui se ressemble presque monochrome, mais avec brusquement du sang qui sort du rouge, du bleu, et comme souvent chez Enki Bilal.
C'est devenu un vrai dessinateur, hein, Daniel Ferrière. Vous allez arrêter les romans, en fait.
Non, c'est pas de moi que je parle.
Non, mais la façon dont vous en parlez.
De moi.
La façon dont vous en parlez.
C'est-à-dire que je suis devenu un littéraire du dessin. Non, je parle en passionné. Le Bog, et volume 1, volume 2, qui n'a rien à voir avec le Kill Bill 1 et 2. Le Bog volume 1, volume 2 d'Enki Bilal. Je vous demande de le lire parce que vous allez voir comment un poète, quelle que soit la forme d'art qu'il choisit, finit par nous toucher.
Merci, Daniela Ferrière. On va quand même parler de l'adaptation de Bug à la télévision. Enki Bilal, vous avez une nouvelle à annoncer, car vous l'aviez dit dans la librairie francophone, hein, que vous aviez conçu cette série pour une série télévisée aussi. Et c'est un Québécois qui va l'adapter.
Qui va la réaliser. L'adaptation est en cours, enfin, est en cours avec Dan Franck. Je suis en train d'écrire cette adaptation. Et on a choisi effectivement un réalisateur québécois qui s'appelle Daniel Ruby, qui est un metteur en scène très sensible et qui nous a touchés par un film notamment qui s'appelle Dans la brume avec
Romain Duris,
Et Olga Kurylenko. Mais au-delà de ça, non, voilà, c'est un grand réalisateur, je pense, et voilà, donc c'est un travail qu'on va faire ensemble.
Alors vous l'avez scénarisé ce projet avec Dan Frank, qui a déjà travaillé avec vous sur votre premier film.
Mon deuxième film.
Deuxième film. Vous avez réalisé vous-même plusieurs films, trois films, dont Immortel, dont on se souvient tous. Pourquoi ne pas continuer ? Est-ce que vous avez été déçu par leur succès tout relatif?
Non, c'est faux, parce que Immortel a fait 1 million d'entrées.
Oui, c'est vrai.
Mais tout le monde dit que c'est un échec. Donc non, ça, c'est très c'est bizarre, pas... mais c'est comme ça.
Enfin, c'est un hommage.
Les deux premiers, ça a été compliqué.
Il a été très bien reçu.
Et c'est vrai que Immortel...
C'est le deuxième qui a... Oui. C'est normal, le deuxième film, il ne faut pas le faire. Il faut faire tout de suite le troisième.
Alors pourquoi vous ne le réalisez pas vous-même?
Non, attends, c'est pas ça. C'est que c'est un autre exercice, la série, sous cette forme-là. J'ai un projet de film que je vais réaliser, moi.
D'accord.
Scénario tout à fait original, mais qui lui-même va devenir une série. Donc, mais je vais la réaliser, celle-ci. Voilà. Donc, c'est en parallèle.
C'est un exercice difficile d'adapter une bande dessinée Astérix, Tintin.
Faut l'oublier complètement. Faut refaire comme si c'était une autre matière. Faut recréer une nouvelle matière avec, même pour les livres, hein. Je pense qu'un roman, ça ne...
Et même pour la traduction aussi, il faut oublier l'original. Il faut vraiment recréer. Ouais. Mais c'est vrai, à chaque fois, il faut intervenir comme artiste.
Ouais. La série Bug est prévue pour quelle date, vous le savez, Enki Bilal ?
Tournage quand même en septembre prochain, il faut quand même du temps à le faire. Mais ça va se faire assez vite, hein. C'est un tournage de télévision, c'est toujours plus rapide. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement.
Bien dans le micro.
Je n'aime pas personnellement les cadences effrénées de tournage pour la télévision.
Ouais. Donc vous déléguez du coup ?
Un grand artiste.
Le langage dans ce film est très important, qui m'a rappelé cette phrase que je répète toujours, elle est fondamentale, de Montaigne. Les questions politiques sont souvent des questions de grammaire. Dans Bog, le langage est fondamental.
Voilà, on va terminer sur le langage. Vous pouvez applaudir Enki Bilal et Dany Laferrière. Merci beaucoup Enki. Bug, tome 1 et 2, je les ai ici. Hop, ils sont parus chez Casterman. Je fais tomber du matériel technique, c'est pas grave, voilà. Mais Dany Laferrière l'a très bien vendu tout à l'heure. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse montréalaise d'origine malienne, Djeli Tapa. La canadienne et malienne Djeli Tapa avec Départ pour Lune, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Jacqueline Castonguet et Frédéric Milano avec Steve Côté, Dominique Baudouin et Pierre Dulon, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction et à la coordination ici à Montréal, Jean-Philippe Véret avec Elsa Pépin.
Dans l'équipe aussi, Christophe Magère et Swann Blanchet. En France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse. René Miklis avec Valérie Elput en Belgique.
Un grand merci aux auditeurs français de France Inter. La librairie francophone a battu de nouveaux records d'audience le samedi de 14h à 15h selon les derniers sondages sur la période septembre-octobre. Ce programme est plus que jamais l'émission livre numéro 1 en France, radio et télévision confondues. Merci à vous, c'est grâce à vous. Merci public de Montréal, merci beaucoup. C'était la librairie francophone au Salon du Livre de Montréal, présentée par Enki Bilal
et Emmanuel Kérad.
Merci, merci Montréal. Merci Enki Bilal.
Merci.
À bientôt, bon week-end à tous.